Et donc, c'est le problème du couple qui fonctionne quand tout d'un coup, l'un des membres se retrouve ému par quelqu'un de l'extérieur. La particularité, là, effectivement, c'est d'être trois. Je me retourne vers vous, les comédiens, Thierry Garnier et Romain Vallambois.
Bonjour.
Alors, on citera également Louise, Emma... Pardon, je n'ai pas son nom de famille.
Morel.
Louise, Emma Morel, qui interprète Lise. C'était comment pour vous de vous emparer de cette histoire d'amour comme ça, triangulaire ?
Mais ce qui est intéressant, c'est que Cléo traite le couple à trois comme un non-événement. C'est-à-dire que la pièce démarre, on est déjà en couple à trois, et ce qui va arriver à ces personnages, ce qui va nous arriver, c'est ce qui peut arriver dans n'importe quelle histoire d'amour. Et elle a une écriture qu'on entend souvent que ça ressemble un petit peu à du Lagarce, autant dans le fond que dans la forme. Et pour moi, ça veut dire aussi que le langage de l'amour, il est universel, qu'on soit deux, qu'on soit trois, qu'on soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Et du coup, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans son écriture et dans la manière dont c'est traité, parce qu'on se rend compte que ces personnages sont face à leur rapport et sont face à leur rapport à l'amour, comme dans une histoire à deux, une histoire plus classique au final.
Face à eux-mêmes aussi. Tout simplement.
Non, oui, exactement. Le problème, enfin, justement, la pièce commence comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui existe. On est à trois et on s'aime et ça va durer toute la vie, normalement.
Vous parliez de l'écriture, effectivement, une écriture contemporaine. Cléo, c'est votre premier ouvrage.
C'est le deuxième. J'en ai écrit une autre avant, mais qui était plus des portraits, des tranches de vie. C'est pour ça que je m'étais fixée d'écrire une vraie, entre guillemets, histoire, une seule dans celle-ci. J'avais écrit une pièce qui s'appelait West Side Story, qui était en 2014-2015, et qui, pour le coup, traitait de la politesse des sentiments. Et qui, voilà, qui était vraiment une première création avec plein de tranches de vie. Donc j'ai grandi aussi dans le fait de me fixer sur un sujet. Et puis par contre, ce ne sera pas la dernière, parce que j'écris pour d'autres spectacles ensuite. Donc c'est chouette de voir effectivement mon écriture, ce que les gens en disent, ce que moi j'en dis et comment elle bouge. C'est très chouette à voir.
Je vous propose qu'on la découvre, cette écriture. Alors, plutôt que de m'envoyer un extrait, vous m'avez proposé de nous interpréter un petit extrait de Trois en live. Et c'est Cléo, d'Angoin, honte à moi, qui va prendre la voix de la jeune femme du personnage de Lise. On vous écoute.
C'est vrai qu'une famille sans photo... Enfin, je sais pas, mais... Je n'imagine pas raconter ma famille sans la photo qui va avec. Alors, faisons comme ça. On se colle sur un bout de papier qu'on montrera plus tard à d'autres. On oublie que tout le monde fait pareil à la maison. Et on le fait. C'est d'un commun. Et bon sang, je vois ma limite. Je vois la limite de mes mains, de mes pieds, et de ma tête, et de ma vie tout entière. Et je ne pensais pas en avoir autant de limites.
C'est comme un jour, je me souviens un peu.
C'était drôle.
C'était un peu triste.
Ah, ça oui.
Je crois que je l'ai impressionnée.
J'ai eu un peu de pitié.
Elle n'était jamais seule.
Franchement, jamais seule. Ou alors si peu. C'est à se demander si on l'approchait. Si on pouvait jamais l'approcher. Toujours avec sa bonne copine Magali, son père, son mec, bref. Je la croisais et je n'avais jamais respiré le même air qu'elle. C'est une métaphore. Bon, et quand enfin j'ai pu lui parler... L'approcher, bon, évidemment, elle n'était pas seule, mais quand j'ai pu lui parler, j'ai senti son odeur. Elle croit que je suis tombé amoureux d'elle le jour où elle a pleuré en écoutant une chanson des Bee Gees. Elle croit que je suis tombé amoureux d'elle le jour où la barbarie s'est invitée jusque sous nos fronts et dans nos rues. Elle croit même peut-être, ou j'en suis sûr, que je suis tombé amoureux le jour où elle a fait de la place à son bras pour me prendre moi aussi. Mais en vrai, non. Elle sait pas. Je suis tombé amoureux d'elle le jour où j'ai respiré son air et son parfum. Impossible qu'un jour j'en aime un autre. De parfum. Impossible.
Merci beaucoup à vous trois.
Merci, bravo. Merci, merci.
Alors on voit dans l'écriture à la fois de la simplicité, de la poésie, c'est quand même très précis tout ça. Et ouais, c'est assez émouvant. Comment réagit le public ?
Alors, c'est assez surprenant parce que les retours, on les a plutôt après. C'est-à-dire qu'on a une salle qui est très attentive, qui en général a une très belle écoute, autant sur des moments un peu plus intenses que sur des moments un peu plus simples. Et ce qui est intéressant dans l'écriture de Cléo, c'est qu'on trouve la poésie dans la simplicité. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher l'effet de style, on va simplement aller chercher à toucher le cœur des gens, en tout cas. En tout cas, moi, le mien, ça me touche le mien quand je joue ce texte-là. Et oui, c'est vraiment ça. C'est la poésie dans la simplicité et la simplicité dans la poésie. Et je pense que c'est une recette qui fonctionne, personnellement.
Oui, puis si j'ai bien compris, faire un écoutant, il ne faut pas que le public n'ait pas peur vis-à-vis des clichés ou des choses comme ça. On est vraiment dans une histoire d'amour à trois. Donc là-dessus, c'est très clair. Ce n'est pas une caricature d'un couple qui arriverait...
Ouais, non, pas du tout. Pour le coup, on n'est pas du tout dans la caricature de quoi que ce soit, mais même de l'amour en général. Parce que pour le coup, moi, je trouve que la poésie de toute histoire, elle est très facile à trouver. Chaque histoire a son petit goût d'aventure. Et en fait, c'est ça que moi, j'aime. Et c'est ça qui est étonnant aussi dans les retours. C'est qu'on va avoir des salles où ça réagit beaucoup, ça rit beaucoup. Parce que le moindre petit truc qui va sortir un petit peu du quotidien, ça va tout de suite emballer le public. Et puis à la fois, il y a des salles où c'est très attentif, très silencieux. Même quand nous, ça nous fait rire. Et c'est ça qui est fort, c'est que même nous, on a nos moments, nos rendez-vous, où on sait ce qu'on attend du public presque. Et en fait, le public nous surprend vraiment à chaque fois parce qu'ils sont très différents. C'est pas un spectacle qui est toujours le même pour le coup.
Ah oui, vous arrivez à faire évoluer au niveau des relations avec le public.
Ouais, beaucoup. Et ça évolue beaucoup sur les réactions du public, sur nos réactions aussi et puis nos ressentis. Il y a des passages qu'on redécouvre, au contraire, il y a des passages qui perdent un petit peu pour nous de leur saveur. Puis en fait, c'est pour que la semaine suivante, elle soit encore plus belle. Enfin, vraiment, cette histoire-là, elle est mouvante et le public change aussi d'une fois sur l'autre. Il n'y a pas qu'un seul public, je crois, qui vient voir ce spectacle-là.
Moi, j'ai envie de parler d'élégance aussi, puisqu'évidemment, quand moi j'ai dit c'est un spectacle sur le trouble, les commissures montent aux lèvres, chacun est un petit peu dans ses représentations. C'est un spectacle qui n'est absolument pas voyeuriste. Il n'y a pas une once, rien n'est montré. Rien n'est montré, mais tout est suggéré et ressenti. Et moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touchée. Alors, c'est cette scène finale qu'on évoquait un peu avant l'émission, hein, ouais, entre les deux garçons. Sans dévoiler la fin, on a compris, hein, un trouble qui fonctionne, et puis l'un d'eux qui va tout d'un coup avoir le cœur comme ça, qui va partir ailleurs. Et c'est très, très beau. Enfin, j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Moi, j'avais des frissons devant cette scène, de voir celui qui va être quitté, qui parle de lui, mais qui parle aussi de l'autre qui est quitté. Comment est-ce qu'on parle ? Est-ce que je te suffis encore ? Est-ce que ça va fonctionner si on n'est plus que deux ? Toutes ces questions-là qui, elles, pour le coup, sont très, très spécifiques au trouble.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça se passe même en deux temps, puisqu'on est trois, donc ce n'est pas une rupture, mais c'est deux ruptures, en fait. D'abord, il y a la rupture de si l'un s'en va, le trouble ne fonctionne plus. Donc, même le couple, l'idée du couple ne fonctionne pas. Donc, c'est nous trois ou rien. Et puis ensuite, c'est vraiment l'éclatement et la deuxième couche, la deuxième rupture, cette fois avec le garçon qui a décidé de partir. Et puis on se retrouve seul face à soi-même.
Oui, c'est vrai, on se retrouve seul comme dans une histoire à deux au final. C'est-à-dire que, encore une fois, l'amour est universel, qu'on soit deux ou trois, et la rupture est universelle aussi. C'est-à-dire que peu importe qui on aime, peu importe combien de personnes on aime, le fait est que quand ça se termine, c'est aussi douloureux pour les deux, les trois, les garçons, les filles. C'est en ça aussi que je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce spectacle, qu'on ait vécu des couples à trois ou non, qu'on ait vécu des couples à deux, qu'on n'ait jamais été en couple. Je pense que chacun peut y trouver son compte parce que l'amour a cette universalité-là, dans le sens où tout le monde y trouve son compte et tout le monde peut ressentir quelque chose, je pense, en voyant, en écoutant et en assistant à ça.
Il y a même une chose intéressante, c'est que moi, ça m'a semblé évident que le couple ne serait pas possible si le trouble s'arrêtait. Et finalement, cette demi-heure, trois quarts d'heure qu'on a passé déjà avec le trouble, on l'a accueilli, on l'a pris comme il était. Et si un s'en va, ça nous semble aussi presque à nous naturel en tant que public de se dire, oui, cette histoire-là est terminée, peut-être une autre peut naître, mais s'il y en a un qui part, tout s'arrête finalement. Et à la fois, c'est cruel, et en même temps, c'est très, très touchant.
Ouais, c'est aussi ce que je voulais, c'était qu'à aucun moment le public ne soit mis en défaut, mis mal à l'aise. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de scènes démonstratives, que ce soit même de baisers en fait. J'ai voulu éviter tout ce qui pouvait justement faire penser même une seule seconde qu'on jouait sur un cliché, sur quelque chose de racoleur ou quoi. Et pareil pour cette fin justement, l'intérêt aussi c'est qu'il n'y ait pas un retournement de situation extraordinaire où soudain on se dit que parce qu'ils sont trois il va se passer quelque chose ou... Le but, moi, je n'aime pas être, j'aime pas être mal à l'aise, mais il y a un bon malaise et un mauvais malaise au théâtre, je pense. Il y a le malaise où, effectivement, on se pose des questions, on est emporté par un truc, et puis il y a le malaise où où on se demande un peu ce qu'on fait là. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est que les gens soient avec nous du début jusqu'à la fin et se sentent bien, en fait, jusqu'à la fin, même dans cette évidence-là, effectivement, que ce sera peut-être pas possible. Si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter.
Mmh. Et bien, en tout cas, cet endroit-là est parfaitement réussi. Aucun sentiment de malaise, une infinie tendresse pour ce joli trouble, y compris dans leur déchirement. Alors, le spectacle 3, mis en scène par vous, Cléo Dangouin, interprété par Thierry Garnier, Romain Valenbois et Louise et moi, Emma Morel, se joue à Darius Milhaud jusqu'au 20 décembre. Alors attention, chers auditeurs, il ne reste que 3 dates pour aller voir 3.
Oui, c'est les mercredis, c'est ça, 21h
21h15, exactement.
21h15, exactement.
Vous pouvez acheter les places sur Billets Réduits, elles sont à 10 euros. Vous pouvez également les acheter directement au théâtre ou bien sur le site du théâtre. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot?
Peut-être qu'on a une page Facebook qui s'appelle 3 le spectacle et où on peut suivre nos actualités. Il y a le teaser, nos vidéos, nos dates, nos séances photos, un petit peu tout. Et qu'on sera en tournée en avril à Lyon, si toutefois vos éditeurs se promènent un peu, et que ce spectacle existe dans sa première forme en théâtre d'appartement, théâtre à domicile. Ah, donc oui. Ce théâtre a plusieurs formes, il est hyper malléable et voilà, ça vaut le coup de l'envisager dans toutes ses possibilités.
Merci, oui.
Et moi je voulais juste rajouter que que ce soit le polyamour, le couple à trois ou toutes ces nouvelles formes d'amour sont de plus en plus des sujets de société, on en parle de plus en plus et je pense que d'ici quelques années ce sera un sujet majeur, donc venez voir le spectacle comme ça vous serez déjà préparé à l'avance.
C'est ça, merci beaucoup à vous, merci à vous l'équipe de Trois d'être venue nous en parler.
Merci.
Merci Capucine et merci effectivement Cléo, Thierry et Romain. On va renvoyer les informations sur notre Facebook aussi par rapport au théâtre Darius Milhaud 3. Et avant donc de retrouver Frédéric Sorel pour Soliloque de Grimm au théâtre de l'Essaillon, Camille profite de la pause musicale pour nous faire découvrir Rosemary. C'est une artiste qui jouera le 7 décembre au Port Salut.
Je
Vous êtes sur FPP 106.3 FM et vous écoutez l'émission Plein Phare. On continue à explorer les événements sur Paris. Et s'il y a un spectacle à voir, en tout cas, moi, je vous conseille le Soliloque de Grimm qui se joue au Théâtre de l'Essaillon jusqu'au 27 janvier, le jeudi au samedi à 21h30. Et je suis ravie d'accueillir Fred Sorel.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
Alors, on va commencer, on va suivre sur l'amour, puisque votre petite phrase d'accroche est « Nul n'est à l'abri de vivre sans amour, nul amour ne peut vivre sans abri ». Et quelle phrase d'accroche, surtout quand on connaît le spectacle. Je voudrais d'abord qu'on commence par l'idée du seul en scène, parce que c'est un seul en scène, certes, mais qui sort un peu des sentiers battus.
C'est un seul en scène... C'est presque une pièce à un personnage, en fin de compte. C'est-à-dire que souvent, on entend par seul en scène un peu one-man show, stand-up, on ne sait plus trop, quoi. Il y a un peu plein de formules. Là, c'est très théâtral, il n'y a pas d'adresse au public, c'est une pièce à un personnage. Voilà.
Oui, c'est vrai que là-dessus, l'écriture est très soignée. On est vraiment sur une pièce de théâtre. Elle a été écrite par Bruno Georges.
Oui.
Et cette relation, parce que si j'ai bien compris, c'est l'auteur qui vous a proposé ce rôle-là.
Voilà, en fait, lui me situait en tant qu'acteur dans une série que j'avais faite à Canal qui s'appelait Mes pires potes au début des années 2000, qu'il aimait beaucoup. Et il avait écrit une pièce très café-théâtre qui s'appelait Les experts, pères comme pères de famille, l'histoire de trois divorcés en coloc. Et il me proposait le rôle du gros glandeur, fumeur de pétard, vautré dans son canapé, un peu comme dans la série. Et quand il m'a proposé ce rôle-là, j'avais 45 ans, donc bien qu'ayant apprécié son écriture, j'ai été obligé de décliner en disant que voilà, j'avais peut-être passé l'âge de jouer les éternels ados. Donc on a chappé longtemps au téléphone, et puis il m'a rappelé 6 mois plus tard en me disant « Fred, suite à notre conversation, je pense avoir compris quelles étaient tes attentes, et je t'ai écrit un seul en scène qui s'appelle « Le Soliloque de Grimm ». Voilà, et il m'a envoyé ce magnifique cadeau, parce que c'est un cadeau.
Et c'est un cadeau aussi pour le public, parce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de coup de poing doux et amer. Hein. Alors précisons effectivement que ce seul en scène n'est pas forcément drôle, pas comme un one-man show, c'est pas des sketchs. C'est l'histoire de Fred Loisel, qui vit à la rue depuis environ 3 ans, et voilà, qui va lâcher sa parole, nous faire partager son monde, avec aussi une date très importante, puisque c'est quand même son anniversaire ce jour-là. Il fête ses 40 ans, excusez-moi.
Alors que moi-même, j'en ai 50. C'est pour marquer le fait que le personnage est 10 ans de moins que moi. C'est pour que le public se dise à ce moment-là, oula, il a pris cher.
En tout cas, le début est dans le silence. C'est-à-dire il y a toute une histoire qui se raconte avant que ce personnage ne prenne la parole.
Il se lève, c'est son quotidien. À l'inverse de beaucoup de SDF, lui, il s'accroche encore. Il fait son petit ménage, il fait sa petite cuisine, il fait sa vaisselle à l'issue de tout ça, il fait sa petite toilette. Il y a encore une volonté de s'accrocher. À l'inverse, on en voit parfois dans la rue qui sont en perdition totale. On sent qu'il n'y a plus d'accroche du tout. Lui, il est encore... il s'accroche à des fantômes d'amour, à des... On ne sait pas bien, mais il s'accroche encore. Il y a une volonté de vivre.
C'est ce qui est assez troublant, c'est qu'effectivement, il y a de la vie sur le plateau. Alors, on peut souligner la mise en scène de Jean-Philippe Azéma. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que c'est fait de briques et de brocs. C'est ça, l'idée de ce quotidien-là aussi est assez... pas perturbant, mais tout d'un coup, on est dans cet univers très construit, comme vous dites, de toilettes, de choses comme ça, qui nous donne le côté démuni de cette personne, mais qui est là, vivante, et qui y croit, tenue par cet amour, effectivement. Ouais. C'est quand même quelque chose dans la pièce qui est son fil, un petit peu.
C'est ce qu'il tient encore debout, quoi. Par rapport au décor, c'est important ce que tu viens de dire, parce que, en plus, la configuration de la petite salle de l'Essaillon, qui est une salle cabaret, c'est une cave voûtée, donne vraiment l'impression de... J'ai joué dans différentes configurations, mais là, pour le coup, les spectateurs me confient avoir vraiment le sentiment d'être sur le campement. Vraiment, en plus, comme je parle de mes acolytes d'infortune autour de moi, le public se sent très vite encerclé par des tentes quechua et se dit, voilà, qu'est-ce que je fous là? Je suis vraiment assis très, très près de chez lui. Certains potes me confiant qu'ils se sont demandé à un moment donné si j'allais leur chier sur les pompes ou quoi. Vraiment, tellement il y a cette proximité-là. Mais il y a cette volonté-là d'obliger le spectateur de me regarder pendant 1h10 quand très souvent les regards ne se font pas, même l'espace de quelques secondes.
Est-ce que, tant dans le travail d'écriture que de mise en scène, ou même vous-même de jeu, il y a eu des rencontres avec des personnes qui vivaient dans la rue pour essayer de comprendre peut-être concrètement ?
Alors, je me suis surtout... j'y ai pensé au départ, et puis je me suis dit, aller à la rencontre de ces gens-là, les questionner. J'aurais pu être honnête sur le fait que je préparais un spectacle de théâtre et tout. J'ai eu peur de leur voler une part d'intimité.
Ouais, ça fait un drôle de positionnement quand même d'aller vous les voir en disant ouais, on va faire une pièce de théâtre.
Voilà, alors j'ai vu des documentaires et puis très vite l'idée de vraiment de faire un travail en immersion avec de vraies personnes à la rue a été oublié avec mon metteur en scène Jean-Philippe Azéma, parce qu'en fait on s'est dit plutôt que d'aller chercher l'image d'un SDF que tu reproduirais, allons plutôt chercher le SDF qui est en toi. En fait, il y a un SDF en chacun de nous. Dans ces documentaires que j'ai vus, comme les documentaires de Jean-Henri Meunier, Rien à perdre et tout à gagner, on voit bien que ces gens-là ont un passé. Mon personnage lui-même a un passé, il était comédien. Il a eu beaucoup de succès, il jouait du Shakespeare, ça se passait très bien. Donc voilà, je me suis dit, voilà, plutôt que d'aller chercher un personnage qui pourrait devenir caricatural, allons voir en moi si ce désarroi, ce désespoir, comment il se matérialise, si j'en étais là, tout simplement. Donc il n'y a pas eu trop ce travail-là. J'avoue que quand je les croise, j'ai un regard un peu plus attentif, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu du voyeurisme, donc je ne suis pas très à l'aise avec ça.
Est-ce que vous pensez que le public, ça peut l'aider peut-être à changer de regard ?
Alors, il y a deux races de public, peut-être plus. Moi, j'en ai identifié deux. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de changer de regard parce que leur regard est affûté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être éduqués sur la situation des gens qui sont à la rue. Et je dirais, là je vais être un peu caricatural pour le coup, qu'il y a un public un peu plus bourgeois, qui me remercie de leur avoir ouvert les yeux. Mais je suis quand même rassuré du fait que beaucoup de gens n'aient pas besoin qu'on leur ouvre les yeux, que leurs yeux soient déjà ouverts par rapport à cette situation-là. Mais si ça peut contribuer que certains les ouvrent, là pour le coup, tant mieux. Il y a un peu ces deux races-là. Ceux qui comprennent le désarroi et la solitude de ces gens à la rue, ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils reçoivent surtout du spectacle, on ne sait pas ce qu'on vient chercher, mais ce qu'ils reçoivent, c'est une grande part d'humanité, une grande part d'empathie, sans changer leur regard, peut-être une envie de se dire bordel de merde, quel monde dans lequel on vit, quoi.
Alors je vais aussi vous proposer que vous nous disiez un petit temps du spectacle en live. On va laisser donc la parole à ce personnage, Fred Loisel, soliloque de Grimm.
Ici, t'as de quoi flipper. Déjà, t'as le problème de la violence. Moi, j'étais pas habitué à me faire tabasser. Je me souviens des coups de ceinturon de mon père, mais c'était donné avec amour. Alors là, je peux te dire que pour des ramassis, on ramasse. Par exemple, quand le PSG joue à domicile, on n'a pas intérêt à traîner près du Parc des Princes, il y a toujours des fachos pour refaire le match. Mais là, le ballon, c'est nos gueules. Puis tu sens qu'il n'y a pas de retenue dans les coups, genre je peux te froisser la gueule vu que t'es un sans-papier. Il y a aussi des bastons contre la concurrence. Depuis la crise, on est de plus en plus nombreux à taquiner la piécette. En ce moment, c'est les Gaulois contre les Roumains. Mais là, on a une tactique. Tous derrière, Chabalix. On lui refile 2-3 verres de vodka et il fonce dans le tas. Par contre, on n'a pas trouvé de potion magique contre les virus. Ah, ici, l'hygiène, c'est pas la priorité. Moi, le premier, je vois au début, j'allais au bain-douche à côté tous les jours, la rue de... Ah, merde. Non, mais maintenant, je fais moins ma coquette. Quand même, il y en a qui abusent. À mon avis, la souche du virus Ebola s'est développée dans le duvet de Kadhafi. Une fois, je me suis retrouvé dans sa tente, j'ai cru que j'étais rentré dans le cul d'un chameau. Oh, le salaud ! Puis la misère, tu fais pas que la voir ou la sentir. Tu l'entends aussi. Le soir, quand le village s'endort, c'est le début du concert. Mais moi j'étais peinard vu que Passepartout n'était jamais malade. À part la fois où il s'est pété la guibole, alors là il s'était bien fracassé. Je t'explique. Son trip à Passepartout, c'est de pisser sur les voitures de flics. Non mais attends, le con, il en a baptisé un paquet. Un soir, il fait sa petite affaire, il voit pas qu'un flic roupille dans la caisse. Il y a poursuite. Je sais pas ce qu'il lui prend, c'est certainement une montée de sucre, mais à un moment donné, mon Passepartout, il saute par-dessus un pont, bien sûr le con, il loupe l'eau, et crac ! Bon, les flics ont été sympas. Ils l'ont amené aux urgences. 2 mois de plâtre. Enfin, c'est ce qui était prévu. Comme ça, le grattait trop, il a demandé à Chabal. Ah bah, Chabal, avec les dents, il t'arrache une portière de bagnole, alors un bout de plâtre. Du coup, mon passe-partout, il s'est mis à traîner la patte. Ouah, il y a tellement de trucs qui clochent chez nous, un pied, une jambe. Si tu regardes bien, un clodo, c'est comme un Picasso. Période rouge. C'est pour ça qu'on va jamais manifester. T'imagines la gueule du défilé ? Autant une Gay Pride, il y a un côté carnaval de Rio, mais nous, là, ça ferait un peu grève des poubelles. De toute façon, on n'est pas très populaire. Nous, comme aide, on n'a que dalle. À part quelques enfoirés qui chantent de la soupe pour remplir nos gamelles. Ou alors, il faudrait qu'un terroriste vienne faire un carton au village. Je suis Clocharlie. Non, ça le fait pas. Puis ce serait con de descendre dans la rue vu qu'on y est déjà.
Merci beaucoup, bravo. On a quand même carrément envie d'y aller, là. Ouais, je précise, hein, les Kadhafi, Chabal, ce sont des surnoms qui se donnent. Hein,
C'est ça, en fait, il a toute une petite bande autour de lui. Il y a un ancien cuistot qui bossait à la table d'Aladin qui s'appelle Kadhafi. Il y a son pote, ancien cheminot Toupichou, qui s'appelle Passepartout. Il y a la seule femme du campement. Il dit à un moment donné, ouais, je sais, mais chez les parias, la parité, qui s'appelle Nicole, mais qu'eux appellent Picole parce qu'elle est bourrée du matin au soir. Il y a Bon Tant Pis, c'est un peu le DJ du camp, un peu en mode punk à chien polytoxicomane qui mixe toute la journée. Et il y a Cartouche, voleur du camp, sur tous les clopes, c'est pour ça qu'on l'appelle Cartouche. Et Terminator, qui est chargé de tuer les rats, même ceux qui viennent du futur.
Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une pièce effectivement avec plein de personnages que vous nous faites découvrir, vivre. Et pour tout vous dire, je ne vous dirai pas la fin, mais on en ressort pas indemne, voilà, si je peux dire.
Oui.
On profite que vous soyez là pour dire donc effectivement, sous les lots de Grimm, c'est au Théâtre de l'Essaillon jusqu'au 27 janvier. Du jeudi au samedi à 21h30 et spécialement pour les auditeurs d'FPP, vous nous proposez des places à tarif 10 euros pour ce jeudi, vendredi et samedi.
Voilà, il suffit simplement aux auditeurs et aux potes des auditeurs, à quiconque qui a pu entendre ce message et le mot de passe magique, à savoir FPP, il suffit de se pointer au théâtre.
Je répète, mot de passe FPP, je répète.
Les Français parlent. Donc voilà, FPP à la caisse du théâtre, jeudi, vendredi, samedi, cette semaine, à 21h30.
On relaiera l'information sur notre Facebook, n'hésitez pas, c'est vraiment un spectacle à découvrir et un interprète aussi.
Merci beaucoup.
Et alors, tout de suite, on va passer à la virgule musicale avec Cécilia.
Alors, je vais vous présenter le quartet de tango qui s'appelle Tango Motan. Le disque est sorti le mois dernier. Ils sont quatre musiciens instrumentistes. Nous avons un piano, une contrebasse, un violon et un bandoneon. Et ils ont composé un album qui s'appelle Défense d'afficher. Ils ont joué à la Cigale le 16 novembre. Donc dans cet album, ils revisitent le répertoire traditionnel de tango des années 30-40, mais font aussi des compositions par le pianiste Leandro Lacapère. Et une reprise quand même très inattendue de la chanson Je dis M de Mathieu Chédid en version tango, qui est très très sympa. Donc ils confrontent leurs compositions avec les orchestrations de l'époque et les versions de l'époque. Et tout ça reste très harmonieux avec une couleur bien évidemment plus moderne du tango. Le titre de l'album s'appelle « Défense d'afficher ». Moi je trouve que c'est... Enfin, pour écouter beaucoup de tango, je trouve qu'on est dans un tango très moderne, mais où on retrouve toutes les sensations du tango traditionnel. On est de rupture en rupture, on bascule de l'exaltation à la mélancolie, de la véhémence à la douceur, de l'espoir à la fureur. C'est très fort, très présent. Je trouve les musiciens super. Donc je voudrais rappeler à la contrebasse, nous avons Blanche Stromboni. Au piano et à la composition de certains morceaux, Leandro Lacapère. Au bandoneon, Marion Chiron. Et au violon, David Aroutunian. Et tout de suite... Rien que le monde, une composition du pianiste Leandro Lacapère.
Oh, pardon, une petite erreur là de musique, excusez-nous. Le temps qu'elle retrouve le défunt affiché de Tango Matin, bah déjà, Cécilia, merci, parce que moi, j'avoue que j'aime beaucoup le tango. Et je suis assez surprise. J'étais pas au courant qu'on pouvait comme ça réorchestrer presque. C'est ça,
yeah. Oui, en fait. C'est-à-dire que le tango, c'est une musique qui est traitée un peu comme le jazz. C'est-à-dire que nous avons les musiques traditionnelles et différentes versions de grands orchestrateurs. Et eux ont aussi réorchestré des vieux tangos.
D'accord. Alors, la régie, on a toujours un petit souci, mais c'est pas très très grave, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que c'est pas la bonne musique. Hein. On va finir par la trouver, hein, excuse-nous, ne vous inquiétez pas, on est toujours sur FPP 106.3 FM. Merci Cécilia, on va essayer enfin peut-être d'émission de retrouver la musique, et on te réécoute quand même pour une virgule qui va bientôt arriver après qu'on discute un petit peu de l'anniversaire de la radio Fréquence Paris Pluriel.
Ok.
À tout de suite. Le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous fêtons nos 25 ans. Et FPP, hein, ça fait 25 ans qu'elle diffuse des programmes dans la région parisienne. Alors FPP, c'est un secteur issu plutôt associatif, alternatif, revendicatif, marginal, enfin, etc., etc. Et on souhaiterait pour cet anniversaire vous retracer un petit peu l'histoire de cette radio qui a connu beaucoup de rebondissements et qui a besoin de vous en cette fin d'année. En 1981, on commence l'histoire, alors que tombe le monopole d'État sur la rediffusion et la radio, pardon, diffusion, le centre d'initiative pour de nouveaux espaces de liberté, qui était piloté notamment par Félix Guattari, participe à la création d'une radio associative et qui s'appelait Radio Tomate. Et oui, c'est notre ancêtre. Et elle s'inscrit dans une réappropriation individuelle et collective et un usage interactif des machines d'information, de communication, d'intelligence, d'art et de culture. En gros, elle vise à ouvrir de nouveaux espaces de débat et d'information politique et à lutter contre les répressions des mouvements sociaux.
On est à quelle année là, à peu
On
près
est en 81, comme j'expliquais, au moment où le monopole d'État sur les radiodiffusions tombe. Et cette première radio, donc Radio Tomate, ne va durer que 2 ans. Notre ancêtre va renaître de ses cendres en 1988, toujours sur le principe de donner la parole aux personnes en lutte. Et cette fois-ci, l'antenne va émettre à 106.7 en région parisienne et va partager sa fréquence avec d'autres radios. Et donc, Radio Tomate va animer à peu près 5 émissions à cette époque-là. Et c'est là où elle va commencer à assumer son envie de pleine fréquence. Et elle va donc porter son énergie sur la création de cette nouvelle antenne. Le projet attendra 1991 pour que Fréquence Libre voie le jour et qui va finir par se transformer à Fréquence Paris Pluriel.
Et Laurence, est-ce qu'on sait pourquoi ce nom, Fréquence Paris Pluriel?
Ben, c'est dans l'idée, hein, de, tu vois, comme j'ai expliqué, d'ouvrir la parole et donc de pouvoir avoir une antenne 24 heures sur 24 où les débats peuvent avoir lieu, où les personnes peuvent se rencontrer, échanger, que ce soit non commercial. Donc c'était l'idée de pluriel et d'ouvrir les portes à tout le monde. On est validé par le CSA en 1992 et on se voit attribuer le fameux 106.3 FM que vous écoutez en ce moment même. Et voilà, la radio va construire sa grille, notamment autour de la solidarité internationale, et continue à accueillir l'équipe Fréquence Libre sur son antenne, qu'elle consacre encore aujourd'hui à peu près un quart de sa grille aux communautés immigrées de la région parisienne. En gros, notre grille, elle se structure en 3 secteurs. Le politique et le social, la culture et les musiques. Maintenant, c'est pas non plus, voilà, ça reste indicatif parce que l'antenne, elle se veut généraliste et elle s'efforce vraiment de décloisonner tous les domaines de savoir et d'engagement. Et c'est pour ça aussi que nous, on est là. Et pour diffuser, ben, il faut un lieu. Alors c'est pareil, il y a une petite histoire. D'abord, la radio s'installe à la Plaine Saint-Denis et puis il y a la tempête de 1999. Les studios sont dévastés. Donc il va falloir déménager, on part sur le quartier de Stalingrad dans le 18e arrondissement, puis il y a un gros bras de fer, non sans difficulté pour l'avoir vécu, mais ce serait trop long à expliquer. on finit par gagner, entre guillemets, notre studio aujourd'hui, qui est 1 rue de la Solidarité dans le 19e. C'est le métro Ourcq-et-Danube. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, a priori, c'est porte ouverte. Donc, venez nous visiter. Et puis, il y a une émission spéciale en public et en direct de 15h30 à 17h. Donc, venez nous voir. Venez découvrir une radio libre. Et oui, ça existe encore. Pardon.
Non, tout à fait. Je voulais juste soutenir ton invitation, Laurence. Ça serait intéressant, Fred, d'avoir votre avis. Peut-être que vous êtes un habitué des studios de radio, mais moi, je trouve qu'il y a une ambiance, quoi. Il y a une odeur, il y a un grain.
Moi, j'ai plus qu'habitué. Quand, en 83, les gens pensent que François Mitterrand a permis les radios libres. En fait, il a réglementé les radios libres. Moi, je me rappelle de 83, où je vais à une manif, où 3 radios sont menacées, Radio Libertaire, Carbone 14, et une troisième dont j'ai oublié le nom, qui était une radio antillaise. Pourquoi elle était menacée, cette radio. Elle n'était pas menaçante pour le pouvoir en place, en tout cas. Et ces radios pirates, libres, qui existaient avant 81, se sont vues, en fin de compte, obligées d'adhérer à une forme de législation. Se sont surtout ouvertes à devenir des radios privées dans lesquelles, effectivement, il allait y avoir beaucoup de publicité, de matraquage publicitaire. Donc, oui, il y a l'odeur, il y a l'ambiance, mais il y a aussi la tenue. Depuis tant d'années, à s'interdire la pub, à donner la parole à tous. Donc c'est effectivement rare et exceptionnel.
Ben oui, c'est un sujet sensible parce qu'effectivement, on se donne le droit de refuser les annonces commerciales où on jugerait que ce ne sont pas nos valeurs humaines, ce qui fait qu'on a les comptes restreints. Et bon, on va vous épargner le fait qu'on ait des centaines de bénévoles, qu'il y a 90 émissions à l'antenne. Et il faut bien aussi des permanents pour assumer les tâches quotidiennes de la radio, les suivis d'antenne, la formation. Un petit coucou à Nadège qui a un régime en ce moment. Et voilà, les contrats aidés ont été supprimés, ce qui fait qu'on a déjà perdu des permanents. Et c'est pas que un boulot, c'est aussi de l'humain qui disparaît. Et donc voilà, on a besoin de vous en cette période de fin d'année parce qu'on veut fêter nos 25 ans dignement. Et on va faire ça sur plusieurs soirées, dont le 10 décembre et le 18 décembre. On a tout mis en ligne, www.rfpp.net. On a même proposé de faire des dons en ligne. C'est vraiment important. On va être honnête avec vous parce que si on vous sollicite, c'est pour participer à la survie de cette radio. Donc voilà, on vous attend très nombreux. Et puis c'est pas que cette radio, hein. C'est comme tu as pu l'aborder. Voilà, on est dans une période en ce moment où faut peut-être un peu crier là cette fois-ci au loup. Ça devient dangereux pour beaucoup d'associations.
Si je puis me permettre, il y a vraiment la suppression des contrats aidés au niveau associatif, c'est un carnage. C'est un véritable carnage. Ça l'est bien sûr au niveau culturel, au niveau d'une radio associative. Mais moi, je vois aussi toutes les assos. J'ai plein de potes qui bossent là-dedans, qui s'occupent d'handicap, d'autisme, où sans le contrat aidé, l'accompagnement ne se fait plus. Des familles se retrouvent dans le désarroi. Quoi. C'est vraiment. Il y a des gens qui font une vraie politique de proximité, qui se prennent en main, qui montent des assos pour faire les choses que le gouvernement ne fait pas. Et être comme ça sapé, c'est d'une violence. Donc bravo pour la résistance, bravo pour le courage. Et je me permets de m'associer à ce que tu viens de dire et m'adresser à tous les auditeurs en disant vraiment que voilà, les dons sont nécessaires parce que cette suppression des contrats aidés, c'est très très compliqué pour les assos.
D'autant que je voudrais juste compléter parce que j'entendais ça hier, mais les contrats aidés, c'est un peu des feignants, etc. Bon sang, mais ils font des heures de bénévolat monstrueuses autour de leurs heures qui sont payées quand même pas cher. Donc non seulement c'est pas des feignants, mais c'est des gens extrêmement compétents, extrêmement engagés, extrêmement généreux, et c'est eux qui font tourner notamment une radio comme FPP avec tous les autres bénévoles qu'on est, mais sans eux, il y a rien, quoi.
Ouais, donc oui. Pardon.
Et sur les contrats aidés, donc nous, avec trois, on va dans les théâtres privés, on va dans les assos, beaucoup, et notamment les petits théâtres font partie de ces endroits qui sont de plus en plus en difficulté, et des théâtres qui existent depuis 35-40 ans, qui ont un vrai public, où il y a du monde, qui sont dans des partenariats avec des jeunes auteurs, dont je fais partie, donc qui nous soutiennent et qui s'excusent de ne pas pouvoir faire plus au niveau financier, qui perdent leurs techniciens, qui perdent leur chargé de com, de diffusion. Et c'est là aussi que les artistes se retrouvent à faire des travaux qui ne sont pas les leurs, des métiers qui ne sont pas les leurs. et on se retrouve à faire de la com, de la régie, de la diffusion lorsqu'on est moins compétent que d'autres. Et ça aussi, pour nous, c'est du travail en plus, c'est du stress en plus, et c'est moins de spectacles au final pour le public.
Alors venez, n'hésitez pas à aller sur le site, et puis la radio continuera à vous en parler. On va fêter cet anniversaire et on va le fêter nombreux. Tout de suite, on essaie d'écouter la deuxième virgule présentée par Cécilia. Excuse-moi, oui, on est bon. Virgule.
Alors, pour cette deuxième virgule musicale, j'avais envie de vous parler de l'artiste Sylvia Pérez-Cruz. L'album s'appelle Vestida de Nit, qui veut dire littéralement vêtue de nuit. Alors, Sylvia Pérez-Cruz, c'est une artiste un petit peu inclassable, qui est une espagnole catalane. Inclassable parce que finalement, elle chante dans toutes les langues, en espagnol, en catalan, en galicien, en portugais, en anglais, puisqu'elle a fait une reprise d'Alléluia de Leonard Cohen, qui est d'ailleurs superbe. Et non seulement elle chante dans toutes les langues, mais aussi dans tous les styles. On est sur un univers un peu flamenco. D'un coup, on passe au jazz, puis à de la musique cubaine, puis à du folk, à du fado. Donc c'est très, très original. Même à des moments, j'ai pensé à de la musique africaine. C'est vraiment très, très chouette. Donc voilà, elle navigue entre tous les styles. C'est pour ça qu'on peut parler un peu d'une artiste inclassable. Ensuite, je voudrais quand même parler de sa voix que moi je trouve un peu hypnotisante, mélancolique et suave, mais vraiment cette sensation qu'elle est dans une quête sonore, qu'elle part en improvisation, même si c'est pas le cas. Mais on est complètement absorbé par sa voix, quoi. Et une dernière chose, avant d'écouter un extrait, je voudrais quand même parler des thèmes qu'elle aborde. Donc, il y a des chansons dont elle est l'auteur des textes, d'autres ce sont des poèmes célèbres où elle parle de l'amour, de la mort, de la nostalgie et aussi d'un sujet, moi personnellement, qui me touche beaucoup, la guerre civile en Espagne, l'exil des Espagnols en France pendant la guerre civile, qui sont des thèmes rarement abordés aujourd'hui et je trouve qu'ils nécessitent une belle écoute. Donc tout de suite, Loca de Sylvia Pérez-Cruz.
Loca, loca. Con su fruta, las palabras se equivocan. Mis voces son aire vuelan, mis días son tierra pesan, mis lunas son soles mienten. Mis ojos son agua fuentes y ahí como me pesan las alas y hay ganas de besarte aire. Mis plumas están cansadas y haz que mi corazón baile y haz que mi corazón baile. Ay, loca. Ay, loca. Así en mi boca y aunque bese con sus frutas de palabras se equivoca. Loca, loca, loquita loca y aunque bese con sus frutas de palabras se equivoca.
C'était Loca de Sylvia Pérez-Cruz, accompagnée d'un quintet.
Merci Cécilia pour cette virgule. On réécoutera Défense d'affichée à la fin de l'émission. On l'a retrouvée. Et tout de suite, Nick, tu es allé voir deux spectacles.
Oui, absolument. Cette semaine, donc, moi, je continuais à m'efforcer à essayer de décloisonner, comme tu disais, Laurence, et dépoussiérer un peu l'image du classique en cherchant des spectacles, des lieux, des formations qui font des choses un petit peu différentes de l'habituel. Et donc, cette semaine, je suis allé pour vous dans deux lieux un peu moins connus, en tout cas que moi, je ne connaissais pas avant d'y être allé. La salle Colonne, qui est dans le 13e, et ce qui était autrefois la Péniche Opéra. Donc, je vais d'abord vous parler du spectacle que j'ai vu vendredi dernier, qui était donné par les solistes de l'orchestre Colonne. Alors l'orchestre Colonne, c'est un orchestre parisien qui existe depuis 1873, donc depuis un très très long moment. Et l'une des choses que j'aime dans la programmation de cet orchestre, c'est justement que les solistes de l'orchestre viennent donner des concerts de musique de chambre à part. C'est pas une démarche de fonctionnaire. Il vient, et là en l'espèce, j'ai vu Michel Bernier à la clarinette, Marie-Claude Bantigny au violoncelle et David Braslavski au piano, vendredi soir, donner un petit concert de musique de chambre. Alors tout ce qu'il faut vraiment pour réjouir de ce concert, parce que on peut avoir vraiment très très peur d'un concert de musique de chambre de classique, même dans une belle salle. Mais là, il y a une programmation très, très intéressante avec des œuvres plutôt peu connues, les trios miniatures de Jouan, que je n'avais jamais moi entendu, même une œuvre créée vendredi soir à titre posthume d'un compositeur que je ne connaissais pas du tout, d'Andaine, Le village sous la mer. Évidemment, les œuvres du répertoire, le trio de Brahms, jouaient extrêmement bien. Mais en fait, le clou de la soirée, le truc le plus génial, c'était des reprises, et là, on est dans le thème avec Cécilia aujourd'hui, des quatre saisons de Buenos Aires de Astor Piazzolla, repris au piano, clarinette et violoncelle, avec une verve. En fait, j'avais presque l'impression que les musiciens aimaient ce moment-là le plus eux-mêmes de tout le spectacle. Donc il y a ce moment avec ces deux tangos qui clôt le spectacle, qui est génial. Donc un petit mot sur l'orchestre avant de lancer un extrait justement d'un de ces tangos. C'est Laurent Petit-Gérard aujourd'hui qui dirige la formation. Vous connaissez peut-être le nom parce qu'il est aussi chef d'orchestre et compositeur. C'est lui qui a écrit la musique de la série Maigret. Et donc dans cette programmation que je vous encourage à voir, il y a également la défense de la musique de film française. Et notamment le 11 février prochain, un concert symphonique mais avec des musiques de films français connues. Donc c'est vraiment une programmation très peu poussiéreuse pour un grand orchestre symphonique. Et je vous propose donc d'écouter le premier extrait qui est justement une reprise dans le classique d'un de ces tangos de Astor Piazzolla. Oui, bien sûr. Donc, c'était Primavera hein, par Astor Piazzolla, qui fait partie des quatre saisons de Buenos Aires. Et de là, donc, pour la programmation au complet de l'orchestre Colonne, c'est orchestrecolonne.fr. Il y a plein de concerts vraiment très intéressants à voir dans cette saison hiver. Maintenant, je vais vous parler donc de la Péniche Opéra, la célèbre Péniche Opéra. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui était un opéra sur une péniche, comme le nom l'indique, au 40 quai de la Seine, et qui, pendant de nombreuses décennies, défendait l'opéra de quartier, l'opéra populaire. C'est un tout petit lieu, c'est vraiment une péniche. Donc, vous imaginez la mise en scène tout en langue dans une péniche, où ils ont joué donc des opéras classiques, des opéras un peu moins connus, des comédies italiennes, et des créations de certains des compositeurs français les plus connus, Pascal Dussapin, par exemple, a été joué là-bas. Et il y a donc 2 années, Mireille Laroche, qui menait cette production depuis de nombreuses années, qui a même fait déplacer cette péniche jusqu'à Berlin et à Prague, par la voie maritime, pour défendre des opéras aussi à l'étranger, a voulu repasser le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc c'est Geoffroy Jourdain et Olivier Michel qui l'ont repris la programmation il y a donc 2 ans et qui commencent à proposer autre chose. Une première chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il y a 2 séries de programmation. Ils font une programmation printemps et une programmation automne. Je trouve, à titre personnel, qu'il y a presque trop de choses à voir à Paris. Donc c'est plutôt intéressant de faire des séries comme ça, où on peut regarder en avance qu'est-ce qu'on va aller voir au printemps, qu'est-ce qu'on va voir en automne. Alors, la nouvelle, ça s'appelle plus la Péniche Opéra, ça s'appelle la pop, la Péniche pop. Et il y a une vraie volonté de faire quelque chose de plus populaire, de plus expérimental maintenant. Il y a toujours du théâtre et du chant. Mais si on est allé voir le spectacle que je suis allé voir samedi soir en pensant voir un opéra, on aurait été un petit peu perturbé. C'est pas du tout un opéra. Enfin, je le savais à l'avance. Mais c'est donc maintenant, il l'appelle maintenant un laboratoire d'expérience musicale où on va chercher des choses. Alors donc, j'ai vu le spectacle d'un chercheur qui s'appelle Thomas Ranou, qui est corniste de formation, qui fait du théâtre et de la musique, dans son spectacle qui s'appelle Son numéro 9 en toutes lettres. Alors, tout de suite, on peut se poser la question, est-ce que son spectacle d'avant s'appelait Son numéro 8? La réponse est oui, c'est vraiment son 9e spectacle, et il travaille donc sur son 10e spectacle qui s'appelle
Son numéro 10.
Absolument, absolument. Ah. Alors, c'est son spectacle, comme je l'ai dit, c'est très intimiste. Il y a une mise en scène intéressante avec on dirait une guitare qui s'est pendue, c'est-à-dire qui est suspendue, qui tournicote. Il y a un jeu de lumière intéressant. Il y a des objets détournés. Donc la mise en scène, la scénographie est très intéressante. Et on est tout de suite introduit dans un spectacle presque hypnotique, avec sa voix qui commence. Il commence à parler dans le pénombre. Ça mélange des chansons, des moments où il prend des vinyles, les pose à plat sur des meubles, et comme par magie, on entend la vinyle qui commence à bouger. Donc il y a un gros travail technique avec des choses pré-enregistrées, des choses live. Il y a une guitariste qui le rejoint sur scène, Gilles Coronado. Et donc on a plein de choses intéressantes. Il tape sur une caisse claire avec le micro. Vous allez l'entendre dans l'extrait. Il peint à un moment donné avec le micro sur une toile. On a donc tous ces bruits-là. Et vers la fin, il y a toute une série de haut-parleurs suspendus et placés sur les meubles dans lesquels il pose, je crois que c'est du riz. Et quand ça commence à vibrer, à sonner, il y a le rythme qui saute en rythme. Donc c'est vraiment ce genre de spectacle où il n'y a rien de... C'est un mélange de philosophie. Ça me rappelait un peu les conférences extravagantes de Pierre Kleitman. Donc c'est assez fantasque, assez exotique, assez hypnotique à la fin. Je vous propose donc d'écouter un petit extrait du teaser de ce spectacle.
J'avais préparé un système... J'ai joué la batterie avec un micro. Je veux dire, j'ai un micro dans la main et je tape les pots. Me permet de survoler la question. C'est là que j'ai dit le stylo. La peau résonne et c'est comme si, avec la cravache, j'enregistre le cri. C'est une drôle d'image.
Oui, bonjour. Voilà. Alors, donc, merci c'était... Nick.
Oui, mais avec plaisir. Donc, c'était un petit extrait du spectacle de Thomas Ranou. Pour la suite de la programmation que moi, je suis curieux de découvrir, allez sur lapop.fr. Merci beaucoup.
On va donner toutes ces informations-là, effectivement, sur le Facebook. Merci, en tout cas, pour nous faire découvrir, Nick, comme tu dis, une musique plus atypique dans ce grand florilège de propositions de spectacles à Paris. Et bien nous, on va se quitter parce qu'il est déjà midi. Je voulais vraiment remercier l'équipe de Troyes qui joue au théâtre Darius Milhaud. Merci Cléo d'être venue défendre ton spectacle.
Merci beaucoup.
Je remercie aussi donc Fred Sorel pour le soliloque de Grimm au théâtre de l'Essaillon. On n'oublie pas que les places sont à 10 euros si vous donnez le code FPP.
Mot de code FPP, je répète.
On remercie Capucine, Cécilia, Nick pour avoir animé cette émission. Et puis on pense vraiment à cet anniversaire. Il faut qu'on arrive à se serrer les coudes. Voilà, c'est une fin d'année difficile.
Et puis ça va être une fête géniale, ça va être une soirée fabuleuse, quoi.
Venez nombreux.
C'est ça, c'est pas que du combat, c'est aussi des retrouvailles humaines et c'est très important pour nous. On se quitte sur Défense d'afficher qu'on n'a pas pu écouter et c'était la virgule de Cécilia. À très bientôt, à le 19, mardi 19 décembre, 11h en direct. Bonne
Exactement.
Semaine à vous tous.
Merci,
Merci.
Laurence.
Merci.
Agenda. C'est plutôt une mission, un engagement.
Il faut forcer les gens à venir dans la rue, se rendre compte justement par eux-mêmes et qu'ils regardent justement tous les médias indépendants.
Parce que vous avez vous aussi envie d'avoir un agenda.
Évidemment, évidemment, évidemment.
Bonjour à tous et à toutes, vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'agenda, l'émission qui relaye les rendez-vous culturels et militants en Ile-de-France. Une émission que vous retrouvez tous les jours sur Fréquence Paris Pluriel de midi à 12h30. Si vous voulez nous envoyer des infos ou bien nous contacter, il vous suffit de nous écrire par exemple au 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris. Vous pouvez également nous appeler au 01 40 05 03 70 ou nous envoyer des mails car nous sommes connectés à l'adresse agenda@rfpp.net. Si vous voulez intervenir en direct pour nous donner des infos en live ou bien réagir à ce que nous disons, vous pouvez nous appeler en studio au 01 40 05 06 10. Et pour écouter toutes les émissions, les balados diffusés, vous pouvez vous rendre sur notre site agenda.rfpp.net sans les 3 W devant, sinon ça ne fonctionne pas. Nous sommes aujourd'hui en studio avec Laurent et Neyma. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Alliance citoyenne d'Aubervilliers qui organise une marche demain pour demander des logements dignes et salubres. Nous en discuterons donc avec vous vers 12h10, mais tout de suite, les événements militants. On commence par la projection du documentaire « Minorité écrasante » d'Étienne Chausson. À l'automne 2007, les étudiants et étudiantes manifestent leur refus de la réforme de l'autonomie des universités, la dite LRU. Le réalisateur suit le mouvement de l'intérieur en étant à l'université de Paris 8, qui est occupée. On voit les tentatives de convergence avec le piquet de grève de la RATP, avec les enseignants, avec la difficulté de tenir la fac bloquée et occupée. Les différents points de vue lors des assemblées générales, parfois chaotiques. Le mouvement finit écrasé suite à la trahison.